Mal,
non.
Pas, ça, tout va bien
Je suis
aller.
Venu préparer.
On est bien.
On mord pas, ouais. Ça va bien.
Pierre-Luc, qui est professeur à au Collège militaire royal, je crois.
Oui, c'est
à
dans
Kingston.
Cet ordre-là,
ouais. Comme, merci d'être venu à Montréal.
Ça me fait
déjà
plaisir.
C'est vraiment le fun. Et Sandrine Galland, qui fait son doctorat sur le féminisme pop.
Oui, disons, oui. Ben, pas disons, oui. Tout à fait. Fait longtemps que je vais venir à Pop en Stock, là, j'ai décidé que ça suffisait. Là.
Oui, Beyoncé, c'est une excellente occasion, voilà, de venir à Pop en Stock.
Exact.
Beyoncé Knowles, née le 4 septembre 1981, donc c'est bientôt son anniversaire.
Bon. Mais mange que toi, Hélène!
Oui, oui, une autre QV 81. Moi, je suis très contente de la QV 81, sauf pour Mathieu Bocoté.
Je t'assure qu'il était né en 80, en tout cas.
Bref. Non, moi, je t'assure qu'il était né en 1944.
Oui. J'allais dire,
oui. Mais ma mère est plus moderne que lui,
et qui fait carrière depuis finalement le milieu des années 90 avec son premier groupe, Destiny's Children, qui est devenu Destiny's Child. Il y a eu des espèces de controverses autour du départ d'une des membres et ils sont devenus un trio éventuellement. Mais Beyoncé a toujours été vraiment la star là, de ce groupe-là, sans contredit. Et depuis 2003, si je ne m'abuse, a fait des carrières solo. 2002, qu'on me dit qu'on me souffle à l'oreille, donc 2002. Et elle a sorti un album exclusif sur Tidal, voilà, quelques semaines à peine. Formation? Ah non, mais là, Lemonade. Formation, c'était avant. Désolée. Lemonade, qui parlerait de peut-être un cas d'infidélité avec Jay-Z, son mari, qui est lui aussi un grand, mon Dieu, un grand rappeur, un grand roi, on peut dire ça. Et... mais avec justement Lemonade aussi, certains vidéoclips qui sont sortis, Beyoncé prend de plus en plus position par rapport à toute la question, les tensions afro-américaines aux États-Unis. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant parce qu'au début, si au début elle faisait des chansons, mais même des chansons qui étaient quand même girl power, mais beaucoup moins enfantines que les Spice Girls, avec des chansons comme Bills, 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 Independent Woman Part 2. Ou part 1.
Jusqu'à une certaine limite aussi, Survivor.
Oui, Survivor. Ouais. Elle a vraiment pris son rôle son personnage, on va dire, de rôle modèle de la communauté afro-américaine et vraiment devient un porte-étendard emblématique, absolument fantastique. Donc, j'ai vraiment très hâte de vous entendre. On va commencer par Pierre-Luc.
Oui, ben je voudrais commencer en précisant que j'ai préparé ma chronique d'aujourd'hui dans un café. Puis à peu près à toutes les 15 minutes, il y avait une chanson de Beyoncé qui blastait dans les haut-parleurs, évidemment. Je pense
très
que peu importe où on est, ça risque d'arriver. Des chansons qui étaient tirées d'un de ses 6 albums studio ou même des albums de Destiny's Child. Donc la plus vieille étant, là, si j'ai pendant le laps de temps où j'étais là, si je me trompe pas, c'était Bills, 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 donc de 1999. Puis parfois, ben les baristas s'en allaient changer la playlist. Donc on est passé du hip-hop au pop, à quelque chose de plus lounge, puis après du country pop, easy listening, j'invente des étiquettes, mais il y avait toujours une espèce de renouveau musical, mais peu importe, à chaque 15 minutes, Beyoncé refaisait surface. Okay. Donc c'était Sweet Dreams, Sorry, EXO, Baby Boy, Love on Top, donc c'est différentes époques de Beyoncé. Et je pense que ça démontre à quel point Queen Bee est omniprésente dans nos vies depuis la fin du siècle dernier, même depuis la fin du millénaire dernier, qu'on pourrait dire. Mm-hmm. Et en pensant à tout ce que j'allais vous dire aujourd'hui, je me suis rendu compte qu'on va bientôt entrer dans une ère où les jeunes adultes de moins de 20 ans n'auront jamais vécu dans un monde sans Beyoncé. Mm-hmm. Je pense que ça vaut la peine de le mentionner, ne serait-ce que pour insister sur la place de choix qu'elle occupe dans l'imaginaire et dans la culture populaire et tout le capital symbolique qui accompagne cette place de choix-là. Et donc moi aujourd'hui, je vais un peu empiéter sur le terrain de Sandrine. Je veux parler de féminisme et de Beyoncé comme figure féministe pop et des débats que ça a engendré. Je commence en rappelant d'une entrevue pour le magazine Vogue en 2013 où Beyoncé avait fait l'objet d'un portrait. Donc 2013, c'est il y a à peine 3 ans. On lui demandait est-ce que tu te qualifierais comme féministe, et elle répond I don't know. That word can be very extreme, but I guess I am a modern day feminist. But I'm happily married. I love my husband.
OK, donc une espèce d'opposition entre féminisme et
aimer les hommes. Et je trouve que c'est la réaction que plusieurs personnes vont avoir, les gens qui comprennent le féminisme comme la fausse exigence de détester les hommes, finalement. Donc, une espèce de relent du discours hétéro-patriarcal. Ce qui est intéressant dans la réponse de Beyoncé, c'est qu'elle signale, en tout cas à mon avis, à mon œil extérieur, une espèce de transition, une mutation très rapide dans son discours et dans sa production artistique. Donc, on est passé en 3 années seulement de la transformation d'une artiste. C'est ce qu'on qu'on a vu en tant que spectateur et auditeur, donc d'abord en 2013, elle hésite à se qualifier de féministe, et la même année, elle va échantillonner la conférence TEDx de Chimamanda Ngozi Adichie, donc l'écrivaine nigériane, sa conférence qui s'appelle « We should all be feminists ». Donc, dans la même année, elle dit « Je sais pas trop », puis après, ben, « Nous devrions tous être des féministes », ce qu'elle a échantillonné sur la pièce « Flawless ». Ensuite, en 2014, elle va danser devant l'immense signe lumineux « Féministe » au Video Music Award, et elle va s'associer en 2016, cette année, avec plusieurs militantes afro-américaines sur son album « Lemonade ». Et donc, c'est parce qu'elle vit devant l'œil public, je pense qu'on est capable de la voir autant se transformer, parce qu'elle existe littéralement sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter, dans les magazines, etc.
Oui, mais en même temps, elle accorde très peu d'entrevues. Je pense qu'il y a un silence médiatique autour de...
Ben, elle contrôle beaucoup ce qu'elle va donner au public, mais elle donne des parcelles de sa vie qui sont extrêmement intimes. Donc, on connaît tous sa fille, son mari, l'infidélité. On sait même, on pense qu'on sait le nom de The Other Women. Ce serait Becky with the Good Hair. Donc, elle existe devant l'œil public. Et ça nous permet de reconnaître au fur et à mesure les moments de tension et les moments de mutation de cette figure publique-là. Et donc, l'évolution de ce que je vais appeler la pensée de Beyoncé, même si c'est pas une essayiste ou une philosophe, il y a quand même quelque chose qui se dégage de sa production. Et quelque chose qui tend résolument vers le féminisme. Un féministe pop, évidemment, un féministe extrêmement mainstream, et donc qui prête le flanc à toutes sortes de critiques, parce que c'est populaire, parce que c'est mainstream. Et c'est là-dessus que je voudrais m'attarder aujourd'hui, donc en parlant de Bell Hooks. Et des réactions qu'elle a eues à deux reprises, donc à la sortie de l'album Beyoncé, l'album de 2013, et à la sortie de Lemonade plus tôt cette année. Mais d'abord, bon, quelques mots qui est Bell Hooks pour les auditeurs et les auditrices qui ne le sauraient peut-être pas. C'est une militante féministe intersectionnelle américaine. Elle s'intéresse aux relations...
Déjà,
donc,
juste, t'interromps immédiatement. Intersectionnelle, déjà.
Ben, c'est ça, elle s'intéresse aux relations entre la race, le genre et la classe. Donc, elle va parler beaucoup de la condition noire, mais aussi de la condition subalterne des classes populaires.
Le fait que c'est différent être une femme blanche, d'être une femme noire, d'être une femme noire... dans la pauvre qui vit la pauvreté.
Exactement. C'est ça. Donc comment les différentes oppressions s'intersectionnent. Je pense que j'invente le verbe, mais enfin, ben, c'est pas moi qui l'invente, mais bon, peu importe. Et elle a publié beaucoup de livres importants. On pense à son tout premier, si je me trompe pas, Anti-Women, donc Ne suis-je pas une femme. Ouais. Et ensuite, elle a publié plusieurs autres titres, bon, sur la masculinité, par exemple, des titres sur la pédagogie aussi. Et c'est une féministe qui a enseigné à plusieurs universités, donc Yale, Oberlin, Berea College, Southwestern. Elle s'est promenée un peu partout. Parce qu'elle est ce que j'appellerais je veux dire un esprit libre, voilà. Donc parce qu'elle a eu certains problèmes avec des employeurs, elle fit pas nécessairement dans le milieu académique de façon traditionnelle. Et pourquoi je veux parler d'elle? Parce qu'elle s'est prononcée, comme je l'ai dit, deux fois sur Beyoncé. D'abord lors d'un panel à la New School à New York, drôle de lapsus, à New York, un panel qui s'appelait Are You Still a Slave et qui réunissait Bell Hooks d'abord, mais aussi l'activiste transgenre Janet Mock, la réalisatrice Shola Lynch et l'auteur Marcy Blackman, et ils ont parlé, elles ont parlé de beaucoup, beaucoup de sujets, notamment de l'album éponyme de Beyoncé de 2013, et c'est à ce moment-là que Beyoncé a affirmé, que Bell Hooks a affirmé, pardon, que Beyoncé est terroriste. Et là, gros headline, Beyoncé terroriste, c'est ce que les médias rapportent. Je suis retourné à l'enregistrement de la table ronde pour m'assurer de bien comprendre ce que Bell Hooks voulait dire. En fait, je pense que ça vaut la peine que je la cite. Elle a dit « There is a part of Beyoncé that is anti-feminist, assaulting, that is terrorist ». Donc, elle ne dit pas « Beyoncé est terroriste ». Je pense que c'est important d'insister sur les mots « a part of », dans la mesure où elle l'accuse pas directement, évidemment, de perpétrer des actes terroristes. C'est pas ça la question. La nuance est importante. Ce que Bell Hooks va dire, c'est qu'une part de Beyoncé réitère l'image de la femme noire hypersexualisée et que cette image-là est dommageable. Et c'est ce que Bell Hooks va dénoncer, dans le fond. Elle s'inquiète de ce que l'image que Beyoncé projette, surtout du point de vue de l'hypersexualisation, peut avoir sur les jeunes filles qui écoutent sa musique. Notamment après que le Times Magazine, pour son numéro où il parle des 100 personnes les plus influentes, là, ils avaient mis Beyoncé en couverture où elle était en sous-vêtements blancs. Et donc ça, ce genre de prise de position-là pour Bell Hooks est une position qui peut être antiféministe et avoir des conséquences peut-être aussi néfastes que le terrorisme. Je pense que c'est là où elle a amené cette idée de terrorisme-là.
Il y a
Vas-y, elle a d'ailleurs parlé de cette couverture en disant que Beyoncé était comme un chevreuil dans les lumières, là,
oui.
Deer in headlights.
Oui, exactement.
Comme si elle était aucunement en prise de pouvoir, complètement aveuglée par le spectacle, la manipulation.
Puis elle explique pas, en fait, pourquoi elle utilise le terme terroriste, parce qu'après, la discussion change sur d'autres sujets, et Bell Hooks, à ce moment-là, elle porte un chandail d'elle-même. C'est comme une espèce de
mise en abyme ironique.
Ouais, mais c'était une blague avec quelqu'un dans l'assistance qui avait dit tu devrais porter ça. Ils ont parlé pendant 10 minutes du fait qu'elle portait un chandail de Bell Hooks, sans jamais revenir sur l'adjectif terroriste.
Une espèce de bombe qu'elle avait laissé tomber.
Oui, c'est ça. Et c'est, évidemment, les médias en ont fait leur chou gras, donc ils ont repris ça.
Qu'est-ce que je trouve vraiment bizarre, c'est qu'il y a deux choses. La première, c'est que Bell Hooks, qui est pourtant une... Bah, peut-être que tu vas en parler, une théoricienne qui pense beaucoup aux autres, qui refuse souvent de se mettre dans la peau des autres, justement parce qu'elle est très au courant qu'il y a plein de jeux de pouvoir en place. Là, elle prononce une photo particulièrement de Beyoncé comme étant anti-féministe, tu sais, prononce que Beyoncé est deer in the headlights, alors que qu'est-ce qu'elle connaît de la vie de Beyoncé, un. Puis deuxièmement, c'est vraiment une conception de l'influence des médias qui est extrêmement retardée, là. Comme je pensais que parce qu'on voit des images comme ça, que ça nous influence directement.
En fait, on accuse souvent les féministes féminines, et là, j'utilise des immenses guillemets, mais d'être néfastes pour la cause ou parce que quand ils utilisent leur corps et tout ça, je pourrais pas répondre à ta question sur qu'est-ce qu'elle connaît de Beyoncé. Ce n'est pas une Beyoncé scholar, donc ça, c'est sûr. Elle a pas publié sur Beyoncé en particulier, et à moi, ça me semble très étrange, mais je veux pas faire de procès d'intention de Bell Hooks, mais quand même, pour quelqu'un qui apprécie bien son travail, ça me paraît très étrange et c'est facilement démontable, en fait, son argumentation. Oui. C'est ce que je trouve désolant. Peut-être que c'est une affirmation qui a été faite comme ça, sur le vif. Je ne sais pas si c'était préparé tant que ça. Elle n'est jamais revenue là-dessus. Okay. Pas à ma connaissance, en tout cas. Donc, on a
c'est la première occasion où elle parle de Beyoncé.
Oui, c'est ça. Mais après, quand elle revient, elle n'en parle pas, par exemple. Elle parle de complètement autre chose. Mais moi, je voudrais parler avant d'aller vers cette deuxième intervention de Bell Hooks, je veux revenir là-dessus, justement, sur cette image de la femme noire hyper sexualisée, parce que c'est vrai qu'on va accuser ces féministes-là de ne pas être de véritables féministes, surtout les femmes qui mettent leur corps en valeur. Et ce que je trouve intéressant par rapport à la réaction de Bell Hooks, c'est que sur le même panel, il y avait Janet Mock, qui est une activiste transgenre et qui a parlé ouvertement de son expérience comme travailleuse du sexe. Au moment où elle effectuait sa transition, elle a utilisé le travail du sexe pour pouvoir payer les opérations tout ce qui allait avec cette transition-là. Et donc, ce que Janet Mock dit, c'est que pour elle, il y a quelque chose d'extrêmement libérateur dans la réappropriation du corps par une femme comme ça. Je pense que là, ce que Janet Mock dit et ce que toutes les autres critiques disent, c'est pas que Beyoncé est hors d'atteinte, intouchable ou qu'on puisse pas la critiquer, mais c'est que malgré l'hypersexualisation, on peut essayer de voir aussi dans ce geste-là quelque chose comme une prise de possession de son propre corps. Et ça, l'album de 2013, donc l'album éponyme qui portait le nom Beyoncé, tout simplement, je pense que c'est un moment clé dans la culture pop contemporaine de ce type de réappropriation-là du corps par la femme elle-même. Et ce qu'on voit à l'œuvre dans les chansons et il y a un album visuel qui accompagnait aussi ces chansons-là. Ce qu'on voit à l'œuvre, à mon avis, c'est vraiment une Beyoncé qui est agente de sa propre sexualité. Donc, qui est une femme désirante, qui est en maîtrise, qui maîtrise son corps et ses appétits. Et ça plaît pas à tout le monde, évidemment. De voir une femme désirer ouvertement, c'est un geste, je pense, qui est encore aujourd'hui assez transgressif. Et j'ai fait une petite revue de presse vraiment très, très rapide à propos de ce que les gens ont pu dire par rapport à cet album-là. Et il y a une écrivaine, une critique américaine, Caitlin White, qui publie dans le blog de 405, et elle parle de l'album Beyoncé en disant que chaque chanson qui s'attarde au plaisir sexuel sur cet album-là place vraiment Beyoncé au cœur du récit. Et ça, c'est vrai, on le peut constater en écoutant les paroles et en regardant aussi, les vidéos qui viennent avec. Elle a le plein contrôle des situations sexuelles dans lesquelles elle se retrouve. Et même si l'imaginaire qui est déployé est extrêmement sexuel et explicite et que le langage est vraiment sans équivoque, ce qui est exprimé, c'est, oui, d'une part, le désir de plaire, donc d'être un objet sexuel, mais aussi donc d'être la source du plaisir sexuel pour quelqu'un d'autre, mais aussi ce qui est exprimé, c'est le besoin de goûter au plaisir. Donc, de s'adonner soi-même au plaisir, de prendre. Et donc, Beyoncé devient à la fois sujet, objet et agent de sa sexualité. Et il y a un langage dans cet album album-là, qui, à mon avis, et c'est l'avis partagé par beaucoup d'autres critiques, qui est vraiment très politique, parce qu'il va déconstruire les attentes qu'on a par rapport aux femmes dans la musique pop. On parle souvent de Miley Cyrus. Ben, on a parlé beaucoup de Miley Cyrus pour sa transformation et d'autres vedettes de la pop comme ça, et on s'imagine toujours que ce sont des femmes aliénées par une industrie profondément misogyne, alors que là, on a vraiment une agentivité qui est revendiquée par Beyoncé, qui veut prendre du plaisir et qui veut à la fois en avoir et en donner.
Oui, mais en même temps aussi, il ne faut pas oublier que Beyoncé, avec le couple qu'elle forme avec Jay-Z, je ne veux pas dire que tous les autres sont aliénés parce que je n'y crois pas pantoute, mais il y a elle possède les moyens de production.
Ah oui, bien sûr, c'est la nouvelle royauté américaine.
Oui, c'est ça,
elle
possède
c'est un power couple.
Vraiment, de manière très importante.
Puis elle peut beaucoup plus contrôler son produit que d'autres chanteuses qui sont... je pense à toute la saga qui entoure Kesha et Dr. Luke en ce moment, qui est absolument horrible à regarder se dérouler devant nos yeux. Donc oui, il y a absolument ça. Et on peut dire aussi que dans le fond, ce que Beyoncé fait, c'est qu'elle nous donne ce qu'on veut avoir en tant que public. Le public aime les histoires un peu raunchy, les histoires de sexe, tout ce qui est de l'ordre du très intime aussi. Mm-hmm. Et en nous donnant à voir sa fille, son mari, ses relations, notamment là, je pense à la chanson Partition qui est très explicite là, sur le fait que Jay-Z éjacule sur sa robe qu'elle a pris 45 minutes à mettre, mais que finalement elle va être obligée d'enlever en 20 secondes puis qu'elle aura même pas le temps de se rendre au club où elle veut aller. Je pense quand même qu'on voit Beyoncé là-dedans, qui se positionne comme objet et sujet sexuel, mais qui est aussi... qui montre un petit peu, malgré tout ce qu'on pourrait penser qu'il y a d'hypocrite dans le geste, qui montre quand même... une agentivité qui est nouvelle qui est rafraîchissante, le cliché, mais c'est pas à moi de trancher si elle est hypocrite ou pas, si c'est vraiment de l'aliénation ou une prise de pouvoir. Je pense que c'est pas à l'homme blanc de décider de ça d'abord, mais surtout c'est que ce que je trouve le plus bête là-dedans, c'est que au-delà de l'idée de baromètre moral, c'est que on va prendre cette posture-là, donc celle de la femme comme être sexuelle et sexuée. Et d'une part, on va dire c'est trop radical, ça dérange trop l'ordre établi, c'est trash, on n'en veut pas. Ou d'autre part, on va dire, être aliénée, c'est une pauvre cloche. Et donc, il n'y a pas de juste milieu. On n'imagine pas que la femme peut vouloir affirmer quelque chose à travers ces chansons-là. Et le texte de Partition le montre bien, je trouve, surtout dans l'échantillonnage de ce passage du film de Big Lebowski. Beyoncé reprend les paroles de Julianne Moore où elle parle des femmes qui aiment le sexe. C'est un discours qui est d'une évidence désolante. Les femmes aiment le sexe. C'est-à-dire les femmes en général. Il y a des femmes qui n'aiment sans doute pas le sexe, des gens asexués. Mais de dire les femmes aiment aussi le sexe, c'est un discours d'une désolance qui était d'une évidence désolante. Mais ça demeure radical et dangereux. Et c'est pour ça qu'on va critiquer beaucoup Beyoncé, à mon avis. C'est parce que ça dérange de dire que les femmes aiment aussi le sexe. Et ça dérange aussi parce que ça invite les femmes et n'importe qui d'autre aussi à revendiquer une sexualité et à oublier l'espèce de puritanisme dans lequel on se trouve encore aujourd'hui, qui veut que la sexualité soit sale et doit demeurer cachée, inédite, taboue. D'une certaine manière, on est en train de dire que l'hétéropatriarcat n'est plus capable de contrôler les appétits sexuels, et pour moi, c'est extrêmement libérateur.
Mais jusqu'à quel point est critiqué? Parce que moi, j'entends juste pratiquement des bonnes choses concernant...
Je pense à Bell Hooks, par exemple, et à ces des féministes élitistes aussi, beaucoup qui crachent sur le féminisme pop. Peut-être que tu voudras en parler un petit peu tout à l'heure, mais y a cette tendance lourde-là aussi dans le discours de dire que ce qui vient de la pop doit être regardé de haut et donc doit être regardé comme une culture minable, une culture d'aliénation, et ça, dans ce discours-là. Mais c'est vrai que ce qu'on a entendu surtout, c'était un discours de réappropriation, et ça, Janet Mock le disait lors de la table ronde, mais Bell Hooks n'est pas du tout d'accord là-dessus,
parfait. En fait, c'est ça, petite parenthèse, ce qui dérange là-dedans, c'est effectivement, comme tu as dit, c'est que c'est un mauvais féminisme.
En
12 000 guillemets.
Le bad féministe de Roxane Gay.
Roxane Gay se donne ce droit-là également, et je pense que c'est la lunette qu'on doit toujours avoir quand on étudie un objet de pop, c'est de se rappeler qu'un objet culturel n'est pas obligé de tout faire en même temps. Que ça arrive des fois qu'on n'aime pas cette parole-là dans cette chanson-là, mais on peut quand même essayer de penser le reste.
Oui.
Mais on dirait que particulièrement avec le féministe pop, on est intransigeant. C'est ça. Et donc oui, il y a des gens qui critiquent Beyoncé, surtout justement dans les sphères que tu soulèves. mais on retourne effectivement dans les mêmes sempiternelles tensions de la culture pop versus l'académie, etc.
Oui, oui,
mais ce qui est étonnant, c'est que Bell Hooks est une féministe qui s'intéresse à...
Exact.
Elle s'intéresse pas particulièrement à la culture pop, mais en s'intéressant aux classes populaires et aux enjeux de classe, elle est extrêmement impliquée.
Sensible, oui.
Ouais, donc c'est particulièrement étonnant. Je voudrais parler de sa deuxième intervention,
ouais.
Peut-être. C'est lors de la sortie de Lemonade, plutôt cette année. Elle a publié un texte sur le site du Bell Hooks Institute, qui est associé au Berea College. Et le texte s'intitule « Moving Beyond Pain ». Donc, on parle vraiment des enjeux qui sont à l'œuvre dans Lemonade. Et elle est beaucoup plus nuancée par rapport à Beyoncé. Donc, cette fois-là, elle l'accuse pas d'être terroriste, mais comme je disais tout à l'heure, elle revient pas du tout là-dessus non plus.
Okay, ouais.
Donc, il y a pas de... Y a
c'est
pas
comme si c'était jamais existé.
Ouais, c'est ça. Elle l'a dit dans une table ronde.
Ça a
mais
été
bon,
lancé.
C'est ça.
Puis... Ben, tant pis.
Donc, elle revient pas là-dessus. Elle va critiquer Beyoncé pour son adhésion sans nuance au capitalisme. Et là, là-dessus, ben, je pense que n'importe
qu'on
qui... Ben, c'est ça. On peut être d'accord avec elle. On n'a pas le choix vraiment d'être d'accord avec elle. Et d'ailleurs, ben, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, elle a déjà posé une question intéressante en 2014 lors de la même table ronde. Elle avait dit « Would we be interested if she wasn't so rich?
Mm-hmm, » mm-hmm.
Donc, je pense que la question est extrêmement pertinente. Même si ça enlève rien au talent puis aux objets culturels qui sont produits par Beyoncé, évidemment qu'il émerge d'un lieu de parole qui est celui du privilège de classe. Mais ça,
oui.
Bon, on s'en sort pas avec Beyoncé. Donc, je reviendrai sur les propos de Bell Hooks sur Lemonade. Elle va relever dans son texte ce qui fait de l'album et du film une œuvre positive. Donc, d'abord, il y a déjà un discours qui est beaucoup plus positif. Donc, elle va mentionner notamment la présence d'une multitude de corps de femmes noires sur l'album visuel, des corps qui sont très différents les uns des autres.
Parenthèse complète, là, que vraiment, Beyoncé, au début des années 2000, quand elle a commencé à faire des tournées solo, et je pense que ça doit encore être le cas, elle se faisait un point d'honneur d'engager seulement des musiciennes.
Ah oui.
Sur scène avec elle. Donc ça, quand moi, c'est à ce moment-là que j'ai remarqué Beyoncé, que j'ai comme, OK, tu sais, c'est pas juste des paroles d'être une femme indépendante,
oui.
Les bottines suivent les babines, comme on dit, puis engager que des musiciennes.
Oui, mais non.
Ah? Oui, mais non.
Vas-y. Tu avais promis un oui, mais non.
Oui.
Mais c'est parce qu'il me semble, sûrement que tu l'as lu, qu'il y a eu justement un article sur le fait qu'au contraire, tout ce qui était production et tout ce qui est derrière l'écran, en gros,
oui.
Était, je sais pas, les chiffres sont sortis, étaient de manière presque, ben en tout cas majoritairement masculine.
Okay.
Et il me semble que c'était un des reproches de Bell Hooks ou c'est pas elle, je confonds mes lectures.
J'ai pas lu ça dans le texte de Bell Hooks, mais peut-être qu'elle en a parlé.
Non,
j'ai trouvé
ça. C'est pour faire, quand tu regardes
le générique. Les crédits. Ouais.
Ouais.
Quand
ça.
Tu regardes le générique de Lemonade, tu sais, c'est à 85% des hommes
oui.
qui sont
okay.
derrière.
Ah, voilà.
T'sais.
OK. Bref, j'ai trouvé ça intéressant.
Mais pas en avant, là, tu sais, dans,
ouais.
dans le vidéoclip, dans le film,
film,
parce que c'est quand même
oui,
une
oui.
heure, cette chose, dans le film, c'est autre chose, t'sais. Mais toute la production derrière, c'est faite en majorité par.
J'amène ça ici pour soulever la controverse. Là.
Ah non, mais c'est intéressant. Puis moi, j'ai même pas pensé regarder. J'ai,
ben moi non plus.
J'ai lu.
Et je
j'ai
sais pas moi non
film,
plus au niveau
mais...
du point de vue des tournées, si toutes les personnes qui s'occupent des tournées. Donc,
ouais.
donc pas les personnes qui sont sur scène. Qui sont
c'est
juste...
un souci pour ça.
Oui,
hein.
je sais pas, ça j'avoue, je sais pas. Donc, mais continue
oui,
avec...
Donc c'est ça, Bell Hooks, elle va souligner ça, la présence de tous ces corps de femmes noires, et c'est surtout la différence des corps.
Mm-hmm.
Elle va dire, ils viennent dans toutes les tailles, les formes et les textures, avec toutes sortes de cheveux volumineux. Ça, pour moi, ça a été une révélation, là, quand j'ai vu le vidéoclip de Formation et que j'ai vu Beyoncé avec ses cornrows,
oui.
Les petites tresses très serrées, je me suis dit, il y a quelque chose qui change.
Mm-hmm.
C'est après avoir lu, justement, Chimamanda Ngozi Adichie, que j'ai pris connaissance, parce que n'étant pas une femme noire, je suis absolument pas au courant de la portée symbolique que la coiffure peut avoir là, chez les femmes noires, mais il y a quelque chose qui se passait, et donc ça, Bell Hooks va le mentionner. Elle va aussi saluer la présence des mères des hommes noirs assassinés par les policiers
oui,
dans le film. Elle va aussi parler de la diversité des styles vestimentaires, même si on est quand même dans une espèce de fausse nostalgie du Deep South avant-guerre, là. Il y a quand même quelque chose de, pas avant-guerre, mais avant... la guerre de sécession, en fait. Il y a quand même quelque chose d'intéressant, notamment le fait que Beyoncé arrive avec le capuchon controversé pendant la pièce et tout ça. Mais pour Bell Hooks, là-dedans, il n'y a rien de révolutionnaire et il n'y a rien de radical. Parce qu'elle va donner
okay.
plusieurs exemples d'autres artistes noirs, des photographes, des écrivaines, des réalisatrices qui ont fait des choses qui allaient dans le même sens que Beyoncé, mais qui, évidemment, relevaient pas de la culture aussi majoritairement pop,
mm-hmm.
aussi... hégémonique, oui, donc c'est ça. Donc on en entend beaucoup moins parler, mais ça, Bell Hooks va le mentionner. Elle va dire que ce qui rend l'album puissant et le film qui vient avec, c'est la création d'une sororité de femmes noires qui résiste à l'invisibilité et au silence. Donc il faudrait voir si ça résiste aussi à la lecture du générique, là, malheureusement. Peut-être que la sororité se rend pas derrière la caméra. Mais le point le plus positif dans l'album pour Bell Hooks, c'est ça, c'est qu'on change le white gaze, la culture de masse, à propos de la femme noire. Ça, c'est ce que Beyoncé, en 2013, ne faisait pas, mais que Lemonade réussit pour Bell Hooks. Mais par contre, le capitalisme de Beyoncé demeure un objet de critique dans son texte, et surtout, ce qu'elle va critiquer là-dedans, c'est la violence et la rage qui sont mis de l'avant dans plusieurs des pièces de Lemonade, et qui, pour Bell Hooks, ne suffit pas à participer à la construction d'une estime de soi collective qui soit complètement positive. Donc, pour elle, la violence ne peut pas être revendiquée comme outil pour lutter contre le patriarcat, et surtout la violence dans un contexte capitaliste. Et je sais pas si vous avez Formation en tête, par exemple, mais les dernières paroles, les dernières phrases, c'est « The best revenge is your paper ». Et dans le film, là, je mime, ça sert à rien, on est à la radio, mais Beyoncé fait le geste avec les doigts là, de toucher de l'argent, c'est ouais, ça, ouais. Le cash. Donc, elle dit « The best revenge is your paper ». Moi, je peux pas m'empêcher de penser à Simone de Beauvoir quand j'entends ça, qui disait que l'émancipation des femmes venait avec l'indépendance économique. Bell Hooks va rappeler un manifeste de Glenda Bridgeford qui s'appelait « Girl, get your money straight ». Moi, je pense à Missy Elliott aussi, qui invitait il y a plusieurs années les femmes à faire un peu la même chose dans « Work It », qui est, soit dit en passant, mon go-to de karaoké. Donc, je vais essayer de pas la rapper, mais de la citer correctement. Donc, elle dit « Girl, get that cash. If it's 9 to 5, we're shaking your ass. Ain't no shame, ladies, do your thing. Just make sure you're ahead of the game. » Donc, une invitation à la libération économique pour aller jusqu'à la libération symbolique. Mais Lemonade, Beyoncé, même si elle invite les femmes à participer à leur émancipation comme ça à travers l'économie, c'est une démonstration pour Bell Hooks de la machine capitaliste à son meilleur. Et ça...
Ben, oui, fait, ça c'est
pas ne pas être d'accord.
Mais je pense un peu en parlant, donc corrigez-moi si je me trompe, mais il y a quand même un trope assez connu de la femme noire fâchée.
Absolument, c'est... la angry black woman.
Oui, c'est ça, angry black woman. Est-ce que Bell Hooks soulevait ce point-là? Que Beyoncé, on la voit fâchée. Comme oui. C'est bien, à quelque part, c'est vraiment bien. J'aime ça, voir des madames fâchées. C'est comme, yes, oui. Émancipation. Mais en même temps, Beyoncé est afro-américaine, donc...
Elle ne mentionne pas dans son texte « angry black women », mais elle va dire, par exemple, que la violence est trop glamourisée, puis elle est sexualisée. Je pense que ça, c'est le cheval de bataille de Bell Hooks contre l'hypersexualisation de Beyoncé, notamment dans la pièce « Hold Up ». Ça, c'est la pièce dans l'album visuel là, où Beyoncé a un bâton de baseball et elle va détruire des voitures là, sur le bord de la route. Et elle est habillée avec une espèce d'immense robe jaune. Je connais rien à la mode, mais c'est pas un décolleté, mais c'est ouvert sur la poitrine. Et donc, enfin, c'est magnifique. Mais sauf que pour Bell Hooks, ça montre en fait que... cette hypersexualisation de la violence de la violence va miner tous les efforts que l'album fait pour affirmer que le mensonge et la trahison de l'homme noir peuvent détruire la femme noire d'une certaine manière. Et donc ça c'est le paradoxe que Bell Hooks voit dans l'utilisation de la violence. Roxane Gay, qu'on a mentionné tout à l'heure, qui a écrit le livre Bad Feminist, pour elle, de voir Beyoncé comme ça en colère, ça a été une façon en colère et aussi vulnérable parce qu'elle avoue l'infidélité de son mari. Et toute sa douleur et tout ça, c'est une manière pour Roxane Gay, elle disait en fait que ça lui a permis d'arrêter d'avoir peur d'être trop fragile ou d'être trop vulnérable. Donc il y a les deux réactions face à ça. Moi je peux pas m'empêcher de penser par exemple à France Fanon et aux Damnés de la Terre, son apologie de la violence, mais son petit texte qui parle justement de la violence comme dernier recours pour les colonisés. Je pense aussi à Virginie Despentes, que j'aimerais beaucoup entendre sur Lemonade, mais j'ai rien trouvé pour l'instant. J'ai trouvé une entrevue où elle parlait de l'album éponyme il y a deux ou trois ans, mais je pense que ça serait intéressant d'entendre ces femmes-là qui, ben, ces femmes ou ces hommes-là qui parlent de la violence comme d'un outil positif vers l'émancipation, mm-hmm. pour voir leur réaction par rapport à ça. Peut-être que, moi je pense qu'en fait, je vais mettre des mots dans la bouche de Virginie Despentes, et si elle nous écoute, elle pourra me corriger, mais moi je pense qu'elle trouverait Lemonade beaucoup trop soft. Parce que de la violence des femmes, c'est quand même édulcoré là, dans cet album-là.
Oui, puis à la fin, elle revient avec Jay-Z,
ben oui, c'est
tout ça.
Ça, et donc, ben, si vous me permettez de conclure là-dessus, je ne sais pas si vous avez d'autres interventions à me proposer, mais moi, je voudrais parler de la fin du texte de Bell Hooks, parce qu'elle va dire que l'expression de la douleur émotionnelle de la femme noire, c'est une étape essentielle dans la lutte de la libération, mais qu'elle ne signe pas la fin de l'exploitation et de la domination. Et donc, c'est pour ça que Lemonade est plus intéressant que Beyoncé, mais que ça ne suffit pas encore. Et là, je reprends ce que tu disais tout à l'heure. On demande toujours aux objets culturels du féminisme pop de régler tous les problèmes du monde. Mais mm-hmm. on peut adhérer à un discours comme celui de Beyoncé sans adhérer à tout son discours. Moi, je peux, je serais le premier, ben, peut-être pas le premier, mais je seconderais n'importe qui viendrait parler, par exemple, de l'adhésion de Beyoncé au grand capital. Mais sauf que ça m'empêche pas de voir que sur la pièce Freedom, par exemple, toute l'importance que cette pièce-là peut avoir pour le mouvement Black Lives Matter ou pour la lutte contre le racisme systémique aux États-Unis, tout comme je peux apprécier mm-hmm. particulièrement mm-hmm. la chorégraphie au Super Bowl de Formation qui rappelait beaucoup les Black Panthers. Mais ça, je pense que, Rachel, tu vas nous parler de ces figures-là de l'imaginaire, de l'imaginaire noir aux États-Unis. Parce que dans ses textes, elle va donner la parole à Chimamanda Ngozi Adichie, à Martin Luther King, à Malcolm X. Donc, il y a quelque chose qui se passe. Ça ne veut pas dire que Beyoncé est parfaite, mm-hmm. Mais sauf que je pense qu'on a le droit, parfois, de célébrer ces icônes du féminisme pop tout en gardant un œil critique.
Oui, absolument. Amen.
Amen.
Oui.
On va passer en chanson avec justement avec Freedom, dont tu viens de nommer Freedom, qui a été performé au BET mm-hmm. il y a quelques semaines avec Kendrick Lamar dans une mise en scène absolument fantastique. On va écouter la version audio, bien entendu, mais si vous avez l'occasion de regarder ça sur YouTube.
Ça se regarde sur YouTube et c'est très agréable.
C'est vraiment puissant.
Absolument.
Quand on voit le charisme pur là, c'est ça la définition.
vision televised, hoping that you see the sign. Meet me at the finish line, 40 acres, give me mine. Lemonade all the time, keep that in mind. Formation, formation, exclamation, formation. Fellow great Americans, hello, this is heritage for my medicine. Ten Hail Marys, I meditate for practice. Telling our news, tell me I'm moving backwards. Eight blacks left, deaf is around the corner. Seven misleading statements about my persona. Six red lights aiming in my direction. My possession, yeah. I keep running, jumping the ankle, that's fine. Mushrooms in hazardous, smoke on the back of us. Mama, don't drop on me, rob for me, chop for me. Live for me, breathe for me, see for me. Obviously, gotta be, I can be. Sword and I gotta be, known for me, run for me. Nation and prophecy, don't know me, dropping me wicked. Spirit is riding me like, yeah. Open correctional gates in the high desert, yeah. Open our minds as we cast away oppression. Open the streets and watch our beliefs. You cry my name inside these concrete, I'm praying for every.
Re-bienvenue à Pop en Stock sur Beyoncé, la reine. Et là, elle nous a prouvé qu'elle l'était avec cette performance au prix BET. On passe à Rachel Hippolyte. Allô? Tu veux nous parler des symboles utilisés par Beyoncé, les symboles justement de la communauté dans l'histoire aussi de la communauté afro-américaine.
Effectivement. Donc, en fait, dans les deux, il y a deux aspects que je veux traiter. Le premier, sur la performance au Super Bowl qu'elle a fait en février dernier.
Alors que c'était supposé être Coldplay, en fait.
Oui, et qu'elle a complètement volé la vedette, oui, en tout cas, et à Coldplay. Donc, ce premier aspect-là, où est-ce qu'elle utilise le symbole des Black Panthers, on va y revenir. Et pour le deuxième, décortiquer les différents symboles qu'elle a utilisé dans le film Lemonade.
D'accord.
Et donc dans les clips qui en ont découlé comme oui. Formation. Et de revenir sur certains symboles que je trouve important de mentionner. Il y en a eu plusieurs, mais donc voilà. Donc par rapport au Super Bowl, donc ça a été une performance dont on a entendu beaucoup parler quand même pour plusieurs aspects parce que bon, ça a été assez controversé. Parce que lors de la fameuse performance, où il y a eu un medley avec Bruno Mars, entre autres, elle est arrivée pour interpréter Formation avec ses danseuses qui portaient des costumes qui étaient inspirés vaguement ou assez clairement, en fait, des Black Panthers.
Elle-même, elle avait aussi une espèce de jacket militaire.
Absolument, aussi. Oui. Puis elle, dans son cas, en plus, c'était très apparent, là. Je veux dire, peut-être un peu plus que ses danseuses. Ses danseuses portaient le béret noir des Black Panthers, qu'ils portaient pour s'identifier. Et à part cette... Donc, déjà la performance où on voyait une Beyoncé et ses danseuses très fortes, très affirmées avec ce costume-là, outre cette performance-là, il y a aussi la photo. Il y a eu une photo qui est sur Twitter qui a circulé de l'équipe Beyoncé où on voyait les danseuses et Beyoncé elle-même lever le poing,
oui, oui.
Comme pour rappeler ce symbole utilisé dans le nationalisme noir qui a été aussi utilisé lors des Jeux olympiques de 68 à Mexico oui. Avec les deux sportifs, les deux Olympiens qui sont montés sur le podium et qui ont brandi le poing
et l'Australien blanc.
Oui, j'étais là. Ah,
mais... qui était l'équivalent de Coldplay.
Oui. Oh, quel beau parallèle!
Ils sont devenus amis. Ils sont tous devenus amis après. Ça, oui. Ça, c'est la petite histoire. Donc, continuons. Oui.
Je ne savais pas ça. J'apprends quelque chose. Donc, voilà. Donc, utilisant ce symbole-là, et ça a vraiment choqué les gens. Donc, petit retour sur, en fait, ce que c'est les Black Panthers. Mm-hmm. C'est une organisation qui a eu 50 ans cette année, qui a été fondée en 66 et qui se voulait un mouvement révolutionnaire très proche dans l'essence des idées de Malcolm X puis du nationalisme noir. Le nationalisme noir prônait, entre autres, d'avoir comme idée d'avoir un État qui serait exclusivement noir, par okay. exemple. Ou,
au sein des États-Unis? Ou
au sein des États-Unis. Okay. Y a eu cette option-là, ou carrément de faire un retour en Afrique aussi. Bon. Des Noirs américains, une des choses aussi qui était valorisée par le nationalisme noir, c'était que les Afro-Américains s'approprient des noms africains au okay, lieu oui. de leur nom, d'un nom
américanisé
ou occidentalisé, tu sais, bon, entre autres, de la création de noms aussi, ce qui explique peut-être les Latoya et autres créations afro-américaines de noms, ça vient justement de cette mouvance-là, en fait. Entre autres, il y en a plein d'autres, là, mais je vais me limiter à ces deux-là. Donc, c'est un mouvement qui était dans ces eaux-là. Ils ont écrit un manifeste et dans le manifeste revendique entre autres tu parlais du capitalisme tout à l'heure, une des choses qu'on dit dans le que les Black Panthers affirment dans leur manifeste, c'est nous voulons mettre, traduction libre de ma part, nous voulons mettre fin au vol par le capitalisme de nos communautés noires. Mm-hmm. Donc le fait que le capitalisme spoil
gâte.
Ouais, les communautés, mm-hmm. c'était une des affaires qui était revendiquée. Entre autres, il y avait aussi le fait que ils voulaient la liberté pour toutes les populations noires et pauvres et opprimées qui sont actuellement dans les prisons fédérales d'État mm-hmm. et compagnie, de mettre justement de l'avant aussi d'être contre la brutalité policière ce genre de choses. Donc on en parle de la brutalité policière dans ce manifeste-là. Ce qui est intéressant quand on pense au mouvement Black Lives Matter, où est-ce qu'il y a vraiment une parenté très proche en oui, fait oui. avec ça, avec un esprit plus revendicateur.
Les Black Panthers, quand même, il y avait un côté armé, armé violent.
Absolument. Oui. Ben, ils ont eu un problème avec le FBI. Il y avait eu une cause au début des années 70, à la fin des années 60, en 68, je pense. On les accusait de vouloir fomenter des attentats terroristes, là, quand même. Mm-hmm.
Parce c'est un peu que... comme notre bon vieux FLQ.
N'est-ce pas? notre, tu sais, ouais. appropriation.
Oui, FLQ. Non, mais c'est pour faire des comparaisons, non. pour être sûr qu'on...
Ah, absolument, oui, oui, t'as raison. C'est juste, ça m'a fait rire. Mais parce que oui, effectivement, dans une des affaires que les Black Panthers défendaient, c'est que oui, ils étaient justement contre la brutalité policière, mais aussi par une... Il y avait une volonté de défendre le port d'armes. Quand okay. même.
Ah oui, OK.
Ouais, ouais, de la légitime défense, parce que dans le fond les Black Panthers, le nom long c'était Black Panthers Organization for Self Defense.
OK, je sais pas. Okay.
Donc ils prônaient beaucoup l'autodéfense justement, tant une autodéfense sociale donc contre le capitalisme qu'une autodéfense réelle contre les policiers et ceux qui oppressent.
Ben contre le racisme systémique, en fait les conséquences du racisme systémique.
Tout à fait. Exactement. Donc, voilà. Donc, un petit résumé pour les Black Panthers. Fait que tout ça pour dire que le rappel de l'histoire des Black Panthers par les danseuses mm-hmm. qui brandissent le poing et qui rappellent donc tout ça, cette histoire-là, a pas plu à tout le monde. Entre autres, Rudy Giuliani, l'ancien maire de oui. New York, a clamé qu'il était scandaleux de s'en prendre ainsi aux officiers de police en rappelant l'histoire des Black Panthers. Et aussi, ça, c'est le bout qui m'avait fait le plus rire et dont je me suis souvenu en faisant la chose mm-hmm. et en remontant dans mes archives Facebook. Il y a eu un rallye anti-Beyoncé à la mi-février dernier, ouais. le 16 février, devant les bureaux de la NFL pour protester.
Contre
les
le choix de Beyoncé pour le show de la mi-temps. Okay.
Exactement. Puis, il y avait eu un... un libellé là, de pétition pour inviter les gens à venir au rallye en question. Puis ce qu'il disait, dans le fond, c'était le fait que elle valorisait le terrorisme et que par conséquent, elle était dangereuse.
Ils avaient peut-être mal lu Bell Hooks.
C'est ce que j'allais dire. C'est ça. Ah, non, il y a combien de gens qui sont présentés?
Ça a été assez peu. Il y a eu quelque chose comme 200 personnes, ce qui est rien.
Oui, c'est ça.
Et ce qui est quand même très drôle.
Quasiment aux États-Unis, là, parce que, ils ont beaucoup de population aux États-Unis.
Exactement. Tu sais, je pense qu'il y avait quelque chose comme entre 200 et 500 personnes, ce qui est rien. Puis, pour répliquer, ça, c'est mon bout préféré. Il y a eu aussi une manif anti-Beyoncé, donc pro-Beyoncé, qui était là pour dire qu'elle avait eu raison d'être là. Donc, c'est quand même drôle. Voilà. Donc, ça, c'est pour le truc du Super Bowl.
Mais je voudrais juste rappeler que Giuliani, oui, c'est un républicain,
oui,
c'est l'ancien maire qui
se
réclame d'avoir nettoyé New York aussi. Donc, c'est quand même assez... fallait s'y attendre à cette réaction-là. C'est la réaction de l'extrême droite, pratiquement. Je veux pas aller jusque-là, mais presque.
Disons que c'est dans ses cordes.
Ouais, c'est
ça. Clairement, tu sais, c'est effectivement, tu as tout à fait raison, celui qui a renforcé la police à New York, ouais, de dire que... qu'elle s'en prend aux forces policières, c'est effectivement pas très étonnant. Relié à ça aussi, j'avais mentionné plus tard, mais je vais le mentionner maintenant, le fameux sketch de Saturday Night Live. SNL, merci.
Plus simple comme ça.
Merci. Où est-ce qu'il y avait, c'était The Day Beyoncé Turned Black.
Où
justement, il parlait du... que justement, après le Super Bowl, tous ces blancs qui regardaient la télé, ils disaient « Non, on ne retrouve plus notre Beyoncé de Crazy in Love et du reste. » Et qu'elle était devenue noire.
Oui, oui.
Well, Beyoncé is... Don't you know that? Beyoncé is black! It's horrible! Puis il y avait une actrice noire qui disait, but I'm black! Et l'autre, la fille qui répond, but you're not! You're my girl! But I'm still black! En tout cas, bref,
oui, oui,
c'était assez drôle. Donc, il y a cette réaction-là pour aussi se moquer de ces gens qui... qui s'en prennent à Beyoncé, qu'ils aimaient, mais que soudainement, parce qu'elle s'affirme comme noire ou c'est un...
Parce fameux... qu'elle devient politique, ça. Comment
absolument,
ça...
exactement. Donc, en rappelant les trucs des Black Panthers et aussi par le visuel qu'elle a utilisé dans Lemonade, où... parce que ça aussi, ça a changé, tu sais, dans le sens où, si on regarde tous les vidéoclips, ben pas tous, là, mais beaucoup des vidéoclips qu'elle a fait, mettons par rapport aux cheveux, elle se mettait des extensions, oui, puis des perruques, pas mal pour dans plusieurs de ses vidéoclips. Puis dans les derniers vidéoclips, on la voit porter effectivement les cornrows, les tresses collées, comme tu as mentionné tout à l'heure. Ses danseuses aussi portent fièrement l'afro,
oui, oui,
ce qui n'était pas le cas dans ses anciens vidéoclips, mm-hmm, où les danseuses avaient elles aussi des extensions et des perruques. Mm-hmm. Là, c'est clairement... elles ont des afros de plusieurs formes, elles, oui, ont des coiffures aussi naturelles,
oui, oui,
avec leurs cheveux naturels, ce qui est... Puis là-dessus, elle est dans l'air du temps, Beyoncé, tu sais... dans les communautés afro-américaines, il y a vraiment un retour, justement, une volonté de retourner aux cheveux naturels, mm-hmm, mm-hmm, à le porter, à revendiquer la fierté, le nappy and happy, là, mm-hmm, de revendiquer, justement, le fait d'avoir les cheveux crépus, puis d'en être fier. Mm. Notamment, il y a eu un film, un documentaire qui s'appelait Good Hair.
Good Hair, Chris, ouais. Chris Rock.
Oui, avec Chris Black, où est-ce que, justement, ce qui avait déclenché son...
C'est pas Chris Rock?
Chris Rock, j'ai dit Chris Black, en tout cas. Voilà, Chris Rock, merci. Où est-ce qu'il revenait là-dessus, ce qui avait déclenché sa volonté de faire ce documentaire-là, c'était que sa fille, à lui, disait qu'elle avait pas des bons cheveux, tu sais. Puis ça l'avait frappé, puis c'est ce qui avait fait faire le tour des salons de coiffure,
oui,
et
oui,
ainsi de suite, tu sais, pour interroger les femmes là-dessus. Donc... Puis c'est ça, donc, mais si on, ces danseuses-là, donc, ont des afros et des coiffures typiquement afro-américaines, il reste que Beyoncé, comme telle, bon, dans le film Lemonade, on la voit avec ses tresses et tout ça, mais dans ses images publiques d'elle, si elle n'est pas en représentation, elle va continuer à avoir les cheveux plus ou moins ondulés, plus ou moins lisses, puis pas noir, brun, très foncé.
Oui, elle-même, elle a la peau quand même très, très blanche. Mais
elle est claire.
C'est ça, son teint est vraiment pas autant chocolat que d'autres personnes.
Il y a d'ailleurs des critiques qui lui ont reproché de faire une hiérarchie entre les couleurs de peau, donc les danseuses les plus à l'arrière étaient les plus foncées.
Ah, oui, okay.
Mais ça, dans Lemonade, j'ai cru constater, mais j'ai pas fait une analyse très détaillée, là, mais que c'était beaucoup plus fluide. Donc,
absolument, c'est une des affaires qui, effectivement, c'est beaucoup plus, sont très mélangées. Justement, on voit une plus grande présence aussi des femmes plus foncées, de un, puis aussi par rapport à ce que tu disais sur le fait qu'elle avait la peau très claire. Mm-hmm. Tu sais, dans Formation, tu sais, elle revendique sa fierté d'avoir un nez très négroïde, mm-hmm. puis les narines des Jackson 5.
Mm-hmm.
Mais en même temps, quand on regarde Beyoncé, c'est pas celle qui a le nez le plus épaté de la planète, là, parmi les noirs, tu sais. Elle est loin d'avoir les narines super apparentes, puis aussi, tu sais, de revendiquer le fait d'avoir un corps noir, mais comme tu soulignais, qu'elle soit elle-même assez pâle, tu sais. Donc,
oui, ça ajoute un niveau de complexité.
Absolument, c'est ça. C'est que elle revendique quelque chose qu'elle possède, mais pas tout à fait.
Mm-hmm, mm-hmm.
Donc, même chose pour le fait d'avoir cette volonté-là par rapport aux cheveux. Elle revendique ça, mais en même temps, elle-même, dans ses images publiques, hors clip, c'est pas tout à fait ça, tu sais. Bref.
Mmh.
On peut se demander aussi si c'est nécessaire qu'elle fasse, là.
Oui, comme on a conclu tout à l'heure.
Absolument.
Est-ce qu'elle est obligée de...
Est-ce qu'elle est obligée de...
Non, 100% du message tout le temps.
Exactement.
D'autant plus que son corps revendique plein d'autres choses par rapport au canon de beauté. Je pense que c'est une femme avec des hanches beaucoup plus larges que le canon habituel. C'est une femme qui est plus musclée aussi.
Oui, mais elle est pas grosse.
Non, non, c'est sûr. mais elle reste quand même parfois dans certaines.
Mais plus voluptueuse que, mettons, une figure à la Taylor Swift.
Oui, puis il y a beaucoup de memes sur Internet qui vont reprendre, par exemple, des moments de ses performances où on juge qu'elle est peu gracieuse.
Oui, c'est vrai.
Donc il y a quand même une espèce de volonté de jeter un peu d'opprobre sur ce corps qui est pas nécessairement exactement celui qu'on voudrait voir, mais encore c'est ça, ce n'est pas c'est pas une femme au corps hideux non plus. Mais de toute façon, hideux, qu'est-ce que ça veut dire? Excuse-moi, oui, oui. Je suis en train de faire déraper ta chronique.
Pas de problème, là, c'est correct. OK. Donc dans le fond, c'est ça. Donc aussi dans le clip, dans le long film, parmi les choses que j'aimerais relever, il y a une présence dans Formation. On voit plusieurs scènes qui se passent dans une église,
mm-hmm,
en fait. Ouais. Donc, où est-ce qu'il chante et ainsi de suite. Dans également, oh boy, où est-ce que c'est l'église qui est une institution très importante de la communauté afro-américaine, en fait, qui non seulement est un lieu de rassemblement pour la communauté, mais a été aussi un lieu politique, qui a été aussi un lieu où est-ce que on organisait des manifestations pour les droits civiques.
Oui, oui.
Rappelons que Martin Luther King est pasteur, pareil.
Oui.
N'est-ce pas? Dans Lemonade aussi, on voit les funérailles très dansantes qui rappellent de la Nouvelle-Orléans, justement, où est-ce que la personne, finalement, elle meurt, mais que comme elle est accueillie au paradis, ben c'est joyeux. Donc voilà. Dans certaines références politiques que je veux mentionner, il y a celle que tout le monde a entendu parler, le Stop Killing Us, où est-ce qu'on voit dans Formation, où est-ce qu'on voit très brièvement un petit garçon qui lève les bras en l'air avec la rangée de policiers, puis le Stop Killing Us qui est sur le mur. Il y a aussi une référence au drame de... Et ça, ça a beaucoup choqué. C'est ce qui a le plus choqué les gens, de rappeler justement les meurtres de Ferguson et compagnie. Mais ce que moi, personnellement, que je trouvais le, que j'ai trouvé le plus choquant, c'est la référence au drame de Katrina en Nouvelle-Orléans, où est-ce qu'on voit Beyoncé sur une voiture de police et que la voiture s'enfonce dans l'eau et que Beyoncé elle-même s'enfonce dans l'eau, ce qui est une façon, en fait, de mourir beaucoup plus lente, en quelque part. C'est comme si la police tuait la communauté noire représentée par l'icône Beyoncé à petit feu. Puis pour moi, je trouve ça plus choquant.
Non, non seulement la police, mais l'inaction qu'on a vue, qui était éclatante là, post-Katrina, mais et qui peut être revue, de, pas revue, mais qu'on peut lire dans tellement de sphères aux États-Unis.
Absolument, de, par rapport à la, par rapport aux relations raciales et tout ça. Puis ça, je trouve ça, en tout cas, c'est mon point de vue personnel, qui a été assez peu souligné dans les côtés choquants, puis pour moi, qui choque beaucoup plus, dans le sens où c'est ça, c'est la disparition à petit feu, la, la détérioration à petit feu d'une situation pour laquelle on ne fait rien.
Oui, oui.
Puis aussi, tu l'as mentionné, dans le film Lemonade, on voit la tenue de photo des Trevor Martin, Eric Garner, et ainsi de suite, qui est très interpellante quand même.
Merci beaucoup, Rachel. On doit se quitter là-dessus. J'en aurais pris plus, mais le temps.
Oui.
Le temps étant cette chose. On va se quitter avec une chanson. Genre, on va juste entendre quelques minutes, finalement, de Formation. Justement, on a tellement parlé, on va entendre la chanson. Je veux vous remercier, tout le monde, d'avoir été là. Notez aussi que Martine Delvaux, je pense que c'est disponible, d'ailleurs, sur le site de Choc, a fait une conférence de 40 minutes, là, quelques temps, dans un colloque, et ça a été, donc, enregistré grâce aux bons soins de Jean-Michel Berthiaume. Et c'est disponible, donc, sur le site web de Choc. Vous pouvez écouter ça. Moi, je vous souhaite une bonne fin de soirée et à la prochaine!
What happened at the New Orleans? Bitch, I'm back. I'm popular the man.
Y'all haters corny with that Illuminati mess. Paparazzi, catch my fly and my cocky fresh. I'm so reckless when I rock my Givenchy dress. I'm so possessive, so I rock his rock necklaces. My daddy Alabama, mama Louisiana. You mix that Negro with that Creole, make a Texas Bama. Sauce in my bag. Swag.
Ooh, yeah, baby. Oh, yeah. Oh, yes. I like that.
I did not come to play with you hoes. I came to slay, bitch. I like cornbread and collard greens, bitch. Oh, yes. You best believe it.
Y'all haters corny with that Illuminati mess. Paparazzi, catch my fly and my cocky fresh. I'm so reckless when I rock my Givenchy dress. I'm so possessive, so I rock his rock.
Vous écoutez Choc pour sortir des ondes. Podcast, musique, découverte sur choc.ca. La musique au rendez-vous.